retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et cette semaine, Jonathan Léveillé est de retour pour parler business avec moi. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Salut Antoine, en pleine forme aujourd'hui. Et toi?
Très en forme, parce qu'on parle d'un sujet que j'apprécie beaucoup, que j'affectionne même. Les modèles d'affaires. Donc, il y a eu des nouvelles pas tellement intéressantes, on pourrait dire ça comme ça, pour Tupperware, qui pensent peut-être aller en faillite, ou peut-être même qui sont déjà sur le chapitre 11, le chapter 11 aux États-Unis, quand une organisation se place en mode de restructuration. Et ça va nous amener un petit peu à parler de renouvellement de modèles d'affaires aujourd'hui. Mais avant d'en parler, peux-tu nous donner plus de contexte sur la nouvelle que je viens de mentionner pour que les gens qui écoutent le podcast comprennent qui est en train de se dérouler pour Tupperware?
Effectivement, Tupperware, on a vu des articles passer dans les dernières journées comme quoi qu'ils sont en difficulté financière. Les ventes plongent vers le bas constamment là, de mois en mois. Et ils ont beaucoup de difficultés à changer leur modèle d'affaires ou modifier ou se renouveler en tant qu'entreprise. Et une des éléments qui était sorti dans l'article que je trouvais intéressant, c'est que notre génération à nous, pour nous, Tupperware, ça veut dire des petits plats réchauffés qui sont pas ultra plaisants. Donc, la marque à travers le temps dans l'imaginaire des gens ou des générations n'était plus aussi bénéfique que quand ça a parti au départ, que c'est une marque de confiance, puis une marque à ce moment-là de durabilité. Nous, en tout cas, moi, de mon côté, je regarde ça puis ça fait, oh mon Dieu, des plats congelés, j'en veux pas, ou des plats réchauffés, ça m'intéresse pas. Et il y a quand même toute la logique que ça se repose sur le fait que c'est des rassemblements de gens qui vont parler de ça. C'est moins logique aujourd'hui dans les générations renouvelées d'y aller vers ce modèle d'affaires-là. Donc, difficulté financière pour Tupperware. On pourrait parler un petit peu de la même chose pour Bed Bath & Beyond qui viennent de se placer sous le Chapter 11 aux États-Unis, qui ont lancé le signal d'alerte comme quoi que si personne se portait volontaire d'acheter l'entreprise, qu'ils allaient liquider les actifs, entre autres pour les États-Unis. Donc, ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à passer à travers la COVID. Ils sont sortis très faibles à travers la COVID. Et ils ont tenté un paquet de choses pour renouveler leur modèle d'affaires et réussir à ramener des marges qui sont intéressantes. J'entendais ce matin, entre autres, là, au-delà du milliard de revenus, mais à peu près 300 millions de pertes. Donc, après un certain temps, c'est pas du tout viable à faire rouler comme entreprise. Donc, ils ont levé le dernier drapeau rouge pour dire si personne n'achète, on liquide à ce moment-là l'entièreté des opérations et des actifs de la compagnie Bed Bath & Beyond.
Et ça amène la discussion et la réflexion à savoir, est-ce que notre modèle d'affaires est antifragile? D'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas lu ce livre-là, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, le livre Antifragile, qui est excessivement intéressant et fascinant, qui explique un petit peu comment bâtir des organisations qui vont être capables d'être solides et de pouvoir passer à travers des épreuves. Et je pense que l'idée même, le thème au niveau du modèle d'affaires vaut la peine d'être discuté. Est-ce qu'on possède des modèles d'affaires qui sont antifragiles, qui sont solides, qui peuvent passer à travers le temps, qui sont capables de passer à travers des crises économiques? Comment tu abordes ça un petit peu de ton côté, toi, Jonathan, de te poser des questions dans ton organisation, à savoir si ton modèle d'affaires, il est bien en vie, bien installé. Et par la suite, bien entendu, je te donnerai mon point de vue là-dessus parce que ça l'a été, en toute honnêteté, une des questions que je me suis le plus posée dans les dernières années, de se dire, est-ce que notre modèle d'affaires, nos lignes d'affaires sont construites pour passer à travers le temps?
En toute confession, on était pendant longtemps de notre côté en mode surfer la vague sur laquelle on était. Et effectivement, pendant la COVID, ça a été une des plus grandes questions que je me suis posée de mon côté. Comment réussir à renouveler notre modèle d'affaires ou du moins apporter plus de valeur à nos clients actuels et futurs? Et c'est devenu un peu une obsession, je dirais. Pendant la COVID, on avait tous un petit peu plus de temps qu'à l'habitude pour réfléchir. Et de la manière qu'on a attaqué le problème, parce que c'était une des premières fois en affaires là, en 2020, ça faisait 15 ans que j'étais en affaires. Puis là, j'ai dit, bon, comment qu'on renouvelle ce modèle d'affaires-là puis comment qu'on apporte plus de valeur? Et ce qu'on a fait de notre côté, c'est d'aller voir un petit peu c'était quoi les frameworks, les coffres à outils qui existaient pour tenter de faire une démarche de bonifier son modèle et de l'amener à un autre niveau. Et on est tombé sur un concept qui s'appelle le Blue Ocean Strategy, qui est un livre et une méthode de fonctionnement qui est quand même assez bien définie pour se poser les bonnes questions dans un processus structuré pour arriver à ce moment-là à un résultat final qui est des idées d'options de comment on peut se différencier de la compétition puis à ce moment-là, généralement, d'apporter plus de valeur et réussir à partir en mode croissance ou repartir en mode croissance pour aller attaquer d'autres marchés. Fait que de notre côté, ça a été un petit peu ce chemin-là qu'on a pris d'aller s'appuyer sur le framework de Blue Ocean Strategy. Livre disponible directement en ligne. Vous avez deux livres, un qui explique la stratégie, un qui explique comment le mettre en exécution, cette stratégie-là. Et de notre côté, ça a été échelonné du mois de décembre à juin à peu près pour réussir à passer à travers de ces exercices-là. Il y a probablement moyen de le faire plus rapidement avec un coach ou en mode condensé, mais on voulait se donner un peu de marge de manœuvre pour réfléchir. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que les premières étapes du Blue Ocean Strategy, c'est de faire un petit peu un pas de recul pour voir c'est quoi les critères sur lesquels les clients achètent des services ou des produits qu'on vend de notre côté. Et après ça, de faire un beau graphique, de voir nous versus la compétition, comment qu'on se différencie à ce moment-là. Et pas mal tout le monde, quand on fait ça, on se rend souvent compte qu'on n'est pas très loin de la compétition, ou du moins que dans les souliers du client, il n'y a pas une grande différence qui est perçue au bout de la ligne. Donc, tout le reste de l'exercice est basé là-dessus, de dire, bon, mais comment qu'on se différencie, comment qu'on réussit à pouvoir avoir un bon pitch de valeur perçue et de valeur réelle pour nos clients, pour nos prospects. Et c'est un peu la logique. Et le bel exemple qu'il donne dans la stratégie Blue Ocean, c'est le Cirque du Soleil. Puis c'est quand même assez frappant comme exemple, parce que si on regarde à l'époque où ce que le Cirque du Soleil a été fondé, tous les cirques, généralement, à cette époque-là, c'était avec des animaux. Puis tous les cirques se différenciaient entre « est-ce que j'ai les plus beaux animaux en place ?» Est-ce que je me déplace dans un plus grand nombre de villes possible pour aller chercher le plus de dollars possible? Et est-ce que mon prix est le plus bas possible pour faire rentrer les gens à ce moment-là dans mon arène? Et c'était ça les différenciateurs, ou du moins les critères sur lesquels les gens essayaient de se différencier. Et le Cirque du Soleil sont arrivés avec le fait de, ben nous, il n'y aura pas d'animaux, ce qui était impensable à l'époque. Et ils ont dit, nous, on ne changera pas de ville, on va rester dans la même ville. Et après ça, ils ont dit, nous, on ne se battra pas sur le prix, on va charger 3, 4, 5 fois plus cher que la compétition. Et généralement, si on arrête là, on se dirait, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionnera jamais comme cirque. Mais ce qu'ils ont décidé de faire, c'est avec les gains qu'ils ont été capables d'aller chercher monétairement en mettant ces critères-là de leur côté, ils peuvent réinvestir ailleurs pour se différencier. Premier élément qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer des thèmes musicaux pour être capable à ce moment-là d'attirer des gens avant même d'avoir acheté des billets puis d'avoir mis les pieds dans le cirque, l'arène du Cirque du Soleil. Fait que je vous lance le nom de Alegria. Probablement que la chanson part dans votre tête à vous, mais ça a été un excellent moyen marketing pour le Cirque du Soleil d'attirer des gens et de faire connaître le Cirque du Soleil. Mais sans avoir dit, mais nous, il n'y aura pas d'animaux, il n'aurait pas réussi à avoir cet argent-là pour l'investir ailleurs. Ils ont fait la même chose à ce moment-là pour les tentes, les chapiteaux. Ils ont dit, nous, on ne prendra pas des petits chapiteaux de base, on va construire des très gros chapiteaux qui, quand on rentre à l'intérieur, c'est une expérience, le son va être impressionnant, les accessoires et le confort vont être impressionnants. Et avec ça, ils ont réussi à ce moment-là à se différencier de la compétition. Et ils ont fait ça avec plusieurs autres points, mais ils ont réussi à dire, nous, on va être vraiment les différents des autres. Sur des points que les gens diraient, ben ça n'a pas de sens, si vous arrêtez cela, ça ne fonctionnerait pas. Et on pourrait faire un parallèle avec Costco. Tout le monde a peut-être vu le fameux sketch d'un populaire humoriste ici au Québec qui dit, ben ceux qui ont pensé à Costco, ça ne fait pas de sens. On va charger pour vous venir dans notre magasin. Ça ne sera pas beau. On va changer le stock de place à chaque semaine. Vous ne pourriez pas payer avec n'importe quel mode de paiement. Tout le monde dit ça fait pas de sens. J'irai jamais acheter rien là. Mais en réalité, c'est qu'ils ont réussi à se différencier sur d'autres éléments en baissant leur valeur sur ces points-là, mais en augmentant la valeur ailleurs. Fait que c'est un peu ça l'exercice du Blue Ocean Strategy de notre côté qu'on a fait dans les deux dernières années pour arriver avec des nouvelles offres au marché à valeur ajoutée. Fait que c'est comme ça que nous, on l'a attaqué. Je serais curieux, Antoine, de ton côté, comment toi, tu l'attaques dans ton entreprise?
Ben là, tu m'as donné envie d'aller acheter le livre Blue Ocean, livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil. Écoute, ben tu vois, bon, encore une fois, on le répète là, pour les gens qui nous écoutent, Jonathan et moi-même, on est les deux dans le service, donc essentiellement, si on résume à sa plus simple équation, on a des talents, on a certains processus à l'interne qui nous amène à bâtir un résultat en intégrant des talents ensemble, et ce résultat-là est chargé un certain prix à nos clients. Donc, essentiellement, c'est ça du service, peu importe la catégorie dans laquelle on opère, que ce soit dans la technologie, du marketing, c'est un service rendu versus une prestation qui est payée. Donc ça, c'est notre modèle d'affaires de base. C'est notre modèle d'affaires qui génère la grande partie de nos revenus. Nous, ça a été fait sur une analyse, une évaluation qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que c'est revenu sur un sujet qu'on avait parlé, toi et moi, sur un podcast il y a quelques temps. Ça a été l'analyse de nos actifs numériques. Quels sont les actifs numériques qu'on a en ce moment? Et parmi ces actifs numériques-là, qu'est-ce qu'on est capable de monétiser? Et ça, je peux dire ce qu'on a fait. Je peux dire également quel est le roadmap pour le futur qu'on a par rapport à ça. Donc, c'est parti de cette analyse d'actifs numériques-là. Donc, si on revient à la base, nous, notre actif numérique qui fonctionnait énormément bien, c'était notre académie interne, la J7 Academy, qui était en place pour former notre staff depuis un bon bout de temps déjà. Mais on savait qu'il y avait des gens qui étaient intéressés à avoir accès à cette académie-là sans nécessairement travailler chez nous. Donc, bref, des compétiteurs ou des gens qui veulent internaliser leur achat média. Donc, on s'est littéralement posé la question comment qu'on peut créer un modèle de monétisation intéressant autour de cet actif numérique-là. Et là, c'est là qu'on a trouvé une approche basée sur une mensualité où est-ce que les gens ont accès à cette académie-là, accès à nous parler. Bref, ce qu'on a testé de vendre, et je l'ai déjà dit deux fois, c'est de l'accès. Donc, on a bâti un modèle d'affaires autour de l'accès. Et tout ça était relié à un actif numérique qu'on avait déjà et aussi sur un concept qu'on avait également parlé sur le podcast qui s'appelle « Expenses to Profit ». Donc, où vont nos dépenses? Et parmi toutes nos dépenses, est-ce qu'on est capable de transformer ces dépenses-là en profit? Et là, tu vois, ça, on le fait avec la J7 Academy qui génère au moment où on se parle tout le volet formation dans notre entreprise un bon revenu annuel. C'est loin d'être dans des excessivement hauts pourcentages si on regarde nos revenus globaux, mais tout de même, si je regarde ça, c'est peut-être, je dirais peut-être environ 10% de nos revenus totaux dans notre organisation, mais c'est des revenus à très, très haut fort, à très, très haute profitabilité. Donc ça, c'est intéressant. Un autre point aussi, quand on analyse les actifs numériques, ben là, nous, on a créé un petit peu une galaxie de podcasts. Hein? On a créé une galaxie de podcasts. Donc, bien entendu, il y a le podcast Hypercroissance que toi et moi, on est en train de discuter dessus. On a le podcast Social Selling, le podcast Commercial Elite et on a fait l'acquisition récemment du podcast No Pay, No Play. Tout ça ensemble, ça donne beaucoup de visibilité. Si on regarde les chiffres à la fin du mois, on va rejoindre environ peut-être quasiment 50, 60 000 personnes. Eh bien, à un certain moment, et ça, c'est dans le roadmap, c'est de se dire qu'on va atteindre le chiffre critique, la masse critique de personnes qu'on va vouloir rejoindre mensuellement. Ben, au-delà d'être un modèle d'acquisition de clientèle, et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à écouter le podcast que j'ai sorti la semaine dernière sur Hypercroissance qui explique en grande partie comment qu'on le fait. Ben, on va littéralement commencer à le traiter comme un média et vendre de l'espace publicitaire dessus. Eh bien, ça, c'est une autre ligne d'affaires qui est intimement relié à la même prémisse de base d'expenses to profit. Tu mets énormément de dépenses pour bâtir un actif numérique, pour faire en sorte qu'il t'amène des revenus comme on le fait. Bien, ultimement, cet actif numérique-là a de l'espace publicitaire qui peut être accessible à d'autres personnes. Donc, encore une fois, c'est la même chose. C'est une analyse d'un actif numérique qu'on possède déjà. Et la question maintenant à se poser, c'est de se dire, est-ce que cet actif numérique-là peut faire x2, x3 sur sa monétisation? Ou même, littéralement, de juste devenir monétisable, chose que pour beaucoup d'actifs numériques, ce n'était pas présent avant. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Un autre point intéressant, c'est ce qu'on appelle la stratégie de tuck-in, c'est-à-dire littéralement d'analyser essentiellement ta verticale puis ton horizontale. Ça, je crois que c'est un exercice que n'importe qui devrait faire avec son entreprise. Donc, cet exercice-là, c'est d'analyser quelle est ta verticale de client. Donc nous, en l'occurrence, une grande majorité de nos clients, c'est des gens qui vendent en ligne. Et notre horizontale, à la base, c'était la publicité Facebook. Donc, essayer de visualiser une barre horizontale avec le service de publicité Facebook et une verticale autour d'un propriétaire de commerce en ligne. Et bien là, par la suite, posez-vous la question, quelle pourrait être une autre horizontale que ce même propriétaire d'entreprise-là peut avoir? Ben, peut-être qu'il pourrait avoir besoin de email marketing, peut-être qu'il pourrait avoir besoin de publicité Google, peut-être qu'il pourrait avoir besoin de support client pour les gens qui vont lui poser des questions sur son site internet. Bref, cette même verticale-là peut avoir 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15 horizontales. Et là, c'est là que tu peux intégrer un système qu'on appelle tuck-in, c'est-à-dire tu intègres d'autres horizontales à la verticale déjà présente pour augmenter des lignes d'affaires. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il y a à peu près 18 mois de ça qu'on est allé faire l'acquisition partielle d'une agence de publicité Google pour répondre à cette question-là de se dire qu'est-ce que notre verticale aurait de besoin. Ben, on le savait, la publicité Google, le email marketing, etc. Donc, on part dans cette stratégie-là d'analyse d'une verticale et qu'est-ce qu'on peut lui intégrer comme horizontale. Je pense que ça, c'est un exercice que n'importe quelle entreprise peut faire. Tellement simple. Regardez votre client cible, regardez votre offre de service principale et pensez à qu'est-ce que cette même personne-là pourrait avoir de plus. Et ça peut finalement devenir une conclusion où est-ce que vous ajoutez des sphères de service à votre organisation ou vous développez des partenariats qui par la suite peuvent multiplier l'achalandage sur votre sphère de service principale parce que vous êtes capable de référer des leads à ce partenaire-là qui est capable d'aider vos clients selon d'autres horizontales qu'ils peuvent avoir. Bref, vous comprenez un petit peu le jeu. Donc, nous, ça a vraiment été ça. Analyse des actifs numériques. Est-ce que ces actifs numériques-là sont monétisables ou pas? Certains, présentement, le sont devenus après 4-5 ans. La G7 Academy a été lancée en 2018 et est devenue monétisable en 2021. C'est pour te donner une idée. Le podcasting, nous, a commencé en 2018. Au moment où on se parle, il n'y a pas encore d'espace publicitaire qui est lancé là-dessus. Donc, peut-être horizon 2024 qu'on pense peut-être en intégrer, mais on ne le sait pas encore. Et par la suite, de faire l'exercice de talk-in, c'est-à-dire horizontal, vertical, et se poser les bonnes questions.
Je trouve ça vraiment intéressant, Antoine, comment tu l'adresses, le renouvellement du modèle d'affaires ou l'optimisation, parce que c'est complètement parallèle à ce que nous, ce qu'on a fait, mais c'est attaqué d'une autre manière. Fait que je trouve ça intéressant de voir ta vision là-dessus puis comment vous l'avez attaqué. De notre côté, comme je disais, c'est plus vraiment de regarder nos services actuels puis de voir comment qu'on peut les bonifier puis surtout se différencier. Et de la manière qu'on l'a vraiment abordé chez Open Mind, c'est quels sont les irritants actuels des clients ou que nos clients ont ou que les gens ont envers notre industrie, exemple en tant que développeur de logiciels ou fournisseur de services d'infogérance, et de voir comment qu'on peut bâtir là-dessus pour répondre à ces irritants-là, puis dire comment qu'on peut avoir une nouvelle offre de service qui répond directement à éliminer ou enlever ces irritants-là. Puis un bon exemple que je peux donner, c'est dans le développement de produits technologiques, dans le développement de logiciels, souvent les clients ont la perception que le fournisseur tente de les garder captifs. Fait que dans notre offre avec Dev2CEO, qui fait partie justement de l'exercice Blue Ocean Strategy, on dit clairement aux clients, on vous donne la recette de comment internaliser chez vous. La journée où ce que vous voyez qu'on n'apporte plus de valeur dans l'équation, vous avez dans notre podcast toute la recette à succès pour l'internaliser. Donc, on ne vous garde pas captif, puis il n'y a pas de cachette à ce moment-là. Donc, on le dit clairement dans notre pitch de vente, on est là pour apporter de la valeur. Au moment où vous pensez qu'on n'apporte plus de la valeur, la recette est là pour l'amener chez vous si vous pensez que c'est ça qui est le mieux. La réalité, souvent, c'est qu'en comprenant c'est quoi la vraie recette à appliquer, le client comprend un peu plus c'est quoi les implications aussi à faire en arrière, puis à quel point c'est peut-être un petit peu plus complexe que ce que ça peut avoir l'air. Mais on adresse cet irritant-là. On travaille en partenariat avec vous. Si vous voyez qu'il n'y a plus de valeur, on vous continue à vous fournir de la valeur à comment l'amener chez vous. Et c'est disponible en ligne sur notre podcast directement. Donc, c'est un peu un exemple de ce qu'on a fait pour venir répondre à un irritant directement. Puis un autre exemple d'irritant, c'est que souvent les clients ont l'impression qu'on facture comme des avocats. Ils nous appellent 15 minutes, on facture 1 heure, peu importe, n'importe quel rendez-vous, on est facturé. Qu'on a transformé le modèle de facturation pour y aller vraiment au livrable, d'enlever complètement le modèle horaire de l'équation. Puis à ce moment-là, ça fait des discussions puis des relations beaucoup plus intéressantes avec les clients. Donc, on trouve un moyen de partager le risque, partager le upside aussi au bout de la ligne, puis d'enlever tout l'irritant du côté « Ah ben là, tu me parles 15 minutes, ça va me coûter tant », qui n'est pas très agréable dans l'industrie, autant pour nous que pour le client. Fait que c'est un exemple de ce qu'on a fait dans l'exercice de Blue Ocean, qu'on a apporté la méthodologie Dev2CEO à un autre niveau. On a listé 13 irritants qui étaient très communs, puis on a trouvé le moyen de répondre directement à ces 13 irritants-là. Fait que ça nous permet à ce moment-là, quand on rencontre un client, d'être très pertinent puis de dire « Voici comment on se différencie toute la compétition ». Voici c'est quoi les irritants que vous avez sûrement aujourd'hui ou que vous pensez que vous allez peut-être avoir. Puis voici comment, avec notre nouvelle méthode, notre sauce secrète, on y répond pour s'assurer de diminuer ou les enlever complètement. Puis c'est un peu comme ça qu'on a réussi à bonifier nos offres de services à travers le temps.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.g7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Même si c'est différent, en même temps, ce que je vois de très similaire, c'est qu'on va écouter nos clients. Je veux dire, quand je parlais d'horizontal et de vertical, c'est littéralement ça. Hein. Je veux dire, plus souvent qu'autrement, la réponse est dans les défis et dans les problématiques que vos clients vont avoir, d'où l'idée d'être excessivement proche pour eux et de bâtir un modèle autour de cette expérience client-là, de ce succès client-là. J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, Jonathan, que je trouve fascinant à partager avec l'audience, relié à l'information qu'on donne à des gens à l'externe, le contenu qu'on va donner, l'éducation qu'on va donner. C'est tellement contre-intuitif, mais c'est important de le mentionner. Donner du contenu, former la compétition, éduquer les gens, aider les gens de manière intègre pour les aider littéralement, pour les aider réellement dans ce qu'ils veulent atteindre, ne pensez pas que c'est mauvais et que les gens vont vous voler vos recettes. S'ils le font, c'est pas plus grave. Mais les bénéfices de dire tout ce que vous faites et de comment ça a marché et si ça a été un bon ou un moins bon coup sont, selon moi, un facteur de 10. Il y a 10 fois plus de retours que vous allez être capable d'en trouver que de mauvais coups. Oui, des fois, des gens vont prendre des idées. Eh bien, tant pis. Le nombre de personnes par la suite que vous allez être capable de séduire, qui vont aimer votre entreprise, qui vont peut-être devenir clients ou qui vont peut-être devenir des ambassadeurs de votre entreprise, c'est élevé. C'est élevé. Partager de bon cœur, donner des vrais conseils, éduquer les gens, ça fonctionne. Il faut pas nécessairement avoir peur que les gens vont copier ce qu'on fait. Bref, moi, c'est mon expérience. Ça a été notre stratégie marketing depuis le départ dans tout ce qu'on fait, de dire tout ce qu'on fait de A à Z avec tous les trucs et les techniques via nos podcasts, même avec Hypercroissance. On dit littéralement comment qu'on a construit notre entreprise via le podcasting. On n'a pas de cachette. Et on s'est rendu compte que les résultats étaient beaucoup plus élevés que les enjeux rencontrés. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent embrasser et ne doivent pas avoir peur.
Mais ça fait peur parce que là, moi, je suis dans les souliers de la personne qui est relativement nouveau dans cet univers-là. On faisait avant la COVID peu ou pas de marketing pour aller chercher des clients chez OpenMind. Et honnêtement, ça fait peur au début quand on commence à sortir en public, de dire nos recettes secrètes, de comment on le fait. Mais tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Il y a un effet de 10 pour 1 au bout de la ligne. Oui, ça peut affecter certains éléments pour une unité, mais ça va apporter 10 unités de positif au bout de la ligne. Puis c'est notre but, en tout cas, réel au final, en tant qu'entrepreneur, on veut faire la différence dans la vie des gens. On veut aider les gens. L'argent, puis ce qui vient avec au niveau profitabilité, pour moi, en tout cas, c'est un bonus, puis c'est une résultante de ça. Si on apporte vraiment de la valeur aux gens, qu'on est là vraiment pour aider les gens, généralement, le reste va suivre, mais c'est un petit peu dans cette philosophie-là qu'il faut embrasser ça, puis peut-être enlever un petit peu notre peur de dire, ben là, il y a des gens qui vont nous copier. Oui, ça se peut, mais au final, on va aider plus de gens au bout de la ligne, puis je pense que ça va être juste bénéfique pour l'être humain, puis les entrepreneurs au Québec, puis dans la francophonie.
Ah, bien sûr. Bien sûr. Puis si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, vous allez toujours avoir 6 mois d'avance sur la concurrence.
Absolument. Je ferais peut-être juste une mise en contexte par rapport au Blue Ocean. Je l'ai peut-être pas mentionné tantôt, mais la différence entre un océan bleu et un océan rouge, qu'est-ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est qu'un océan bleu, c'est un marché dans lequel il y a peu ou pas de compétition puis que vous vous différenciez beaucoup des autres. Tandis qu'un océan rouge, c'est où ce que les gens, il y a beaucoup, beaucoup de compétiteurs qui est là-dedans. Puis généralement, le meilleur moyen pour savoir si vous êtes dans un océan bleu ou un océan rouge, donc vous seriez appelé à renouveler votre modèle, c'est si le client commence à prendre des décisions seulement par le prix. Nous, on avait certains services dans l'organisation que le client dit, ben écoute, un tel charge moins cher, je vais aller avec lui. Donc, il ne voit plus la différence perçue et la différence réelle de ce qu'on peut apporter. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment lever un drapeau, dire, on est dans un océan rouge, gang. Faut trouver moyen d'apporter plus de valeur, de se différencier pour s'en aller vers un océan bleu. Et on se le cachera pas, là. Une entreprise qui est dans un océan bleu est beaucoup plus plaisante à piloter que dans un océan rouge, parce que honnêtement, de se battre pour le prix, personne gagne au final. Puis en réalité, on n'apporte peut-être plus assez de valeur aux clients au bout de la ligne. Donc, à réfléchir, si vous constamment vous perdez des contrats, des mandats par une question de prix, probablement que vous êtes dans l'océan rouge, que tous les requins s'entremordent entre eux. Et malheureusement, ça finit par être un bain de sang au bout de la ligne.
Il y a un point, par contre, à mentionner là-dessus qui est très important, c'est que si vous œuvrez davantage dans un océan bleu où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, vous allez être plus souvent qu'autrement les premiers à tracer le marché. C'est-à-dire, vous êtes dans une économie qui est nouvelle, dans une catégorie qui est différente, que ce soit par votre modèle de facturation, votre modèle d'affaires, la structure que vous abordez, tout ça. Bref, vous êtes en mode innovation. Il faut accepter des fois que le marché n'est pas prêt. Que le timing, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Est-ce que ça va prendre 1 an, 2 ans? Et c'est souvent comme ça qu'on voit les plus grandes innovations de tous les temps, soyons honnêtes. Mais il y a aussi ça, c'est de se dire quand on opère dans une catégorie où est-ce que personne est, effectivement, il y a de la place pour innover, mais souvent, le marché n'est pas encore prêt à adopter tout ça. Il faut avoir la patience, il faut se dire, est-ce qu'on va être capable de se rendre de l'autre côté quand le marché va être prêt? Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on a les reins assez solides pour passer à travers? Je pense que c'est quand même une nuance importante à mentionner ici.
Oui, et je pense qu'un des meilleurs moyens de l'attaquer, c'est d'aller chercher encore la voix du client ou la voix du prospect. Si bien on sûr. Bâtit une offre sans inclure ces éléments-là, la voix du prospect ou la voix du client, je pense qu'effectivement, peut-être ce gap-là au marché qui fait qu'on peut être un petit peu en avant de la vague, mais par contre, si on commence à sonder tout de suite les gens puis de leur demander c'est quoi leur irritant puis de leur dire si on apporte ça au marché, qu'est-ce que tu en penses? Si les yeux deviennent ronds puis qu'il y a des petites étincelles de l'autre côté, bien, on a peut-être quelque chose à ce moment-là qui réduit cette fenêtre-là d'arriver au bon moment, au bon endroit. Là.
Définitivement. Donc, on a parlé de modèle d'affaires aujourd'hui, tout ça à cause des enjeux qui se sont passés avec les grosses entreprises américaines, Tupperware, Bed & Beyond. Bref, je pense que pour n'importe quel entrepreneur, se poser des questions sur votre modèle d'affaires actuel, va-t-il passer à travers le temps, spécifiquement avec ce qu'on vit? Soyons honnêtes, s'il y a une chose qui va changer dans les prochaines années, ce sont les modèles d'affaires. L'intelligence artificielle est en place pour nous dire un beau bienvenue et lui va décider si certains modèles d'affaires sont assez solides pour passer à travers des changements et d'autres non. Donc, je crois que c'est une réflexion excessivement intéressante et importante à avoir aujourd'hui avec tous les changements qui se déroulent. Est-ce que notre modèle d'affaires est capable de passer à travers ces changements?
Très bonne réflexion à avoir, mais en continu parce que des fois, il peut être trop tard, malheureusement.
Bien sûr.
Donc, nous, notre côté...
Faut jamais arrêter d'innover.
Exactement. Ce qu'on a décidé de notre côté chez Open Mind, c'est de refaire cet exercice-là annuellement de Blue Ocean et de s'attaquer aux services qu'on offre qui, on pense, est le plus dans un Red Ocean pour voir si on est capable de le déplacer dans un Blue Ocean. Donc, de notre côté, c'est un peu comment qu'on l'attaque. On le fait en loop continu annuel pour se reposer des questions parce que ça prend quand même un bon délai entre, mon Dieu, OK, je suis dans un océan rouge, de faire la réflexion, faire les exercices, de tester quelque chose, de développer le procédé de production. Après ça, d'amener certains clients là-dedans, il y a un délai qui peut être de plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire d'années pour pivoter son modèle d'affaires. Donc, faut pas se rendre compte à la Bed Bath & Beyond ou à la Tupperware qui est peut-être trop tard puis qu'il n'y a plus malheureusement grand-chose à faire là.
Effectivement. Jonathan, merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je te laisse filer?
C'est complet. Peut-être 2-3 petites nouvelles rapides, Antoine, si on a le temps.
Vas-y.
Fantastique. On surveille de près l'inflation aux États-Unis parce que ça impacte beaucoup le Canada. Les articles ont sorti comme quoi que fort probablement la Fed aurait gagné la bataille contre l'inflation. Quand on regarde les courbes de l'inflation annualisée, un déclin rapide encore qu'on voit dans le dernier mois là, qu'on a eu les chiffres. Donc, ça sent très bon de manière positive en espérant que ça va descendre en douceur. Même chose au niveau du Canada. Donc, on risque encore une fois de ne pas avoir d'augmentation de taux d'intérêt, ce qui a été le cas la semaine passée. Ils n'ont pas augmenté les taux d'intérêt de la Banque centrale canadienne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, petit fait cocasse, il y a un homme qui a été sentencé pour 1 an et 1 jour en prison pour avoir volé des bitcoins et les avoir cachés dans un pot de Cheetos. Par contre, le côté sensationnaliste là-dedans, c'est qu'il y avait pour aujourd'hui 3,4 milliards de dollars. Donc, la personne, James Zhang, avait volé en 2012 50 000 bitcoins sur le dark web, donc le Silk Road Marketplace, qui est malheureusement un endroit très mauvais à se tenir sur le dark web, qui est plein d'éléments illicites là-dessus qui est vendu. Il avait réussi à rediriger l'adresse des paiements dans son wallet, dans son portefeuille bitcoin, donc 3, quelques milliards de dollars qui étaient découverts. Il l'avait caché dans un coffre-fort et dans le coffre-fort, il y avait le sac de Cheetos et le wallet numérique était caché à l'intérieur. Donc, bizarrement, seulement 1 an et 1 jour de sentence pour avoir volé plusieurs milliards de dollars qui est le contenu de transactions illicites. Et rapidement, dernière nouvelle, l'État du Montana a voté 54 contre 43 en faveur de bannir TikTok dans l'ensemble de l'État. Donc, il est maintenant interdit. Il reste un petit approval à faire, approbation à faire, mais je pense à l'heure qu'on se parle aujourd'hui puis que ça va sortir le podcast, il serait maintenant interdit d'avoir TikTok d'installer sur son téléphone au Montana et de l'utiliser, voyant des frais de jusqu'à 10 000 $ US par jour si on se fait prendre avec ça. Donc, à surveiller. Fort à parier qu'il y a beaucoup d'autres États qui vont bouger. Encore là, c'est une question de sécurité nationale qu'il disait. Beaucoup de spéculation en arrière de tout ça, mais ça va être spécial à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et même ici au Canada, quand on en a parlé dans le dernier épisode, dans les jours suivants, j'ai vu qu'il a commencé à regrouper un comité d'experts pour voir ce qu'elle allait faire avec ça également ici au Canada. Donc, bonne nouvelle qu'il y ait des gens intelligents qui s'y penchent pour voir la sécurité nationale.
Mm-hmm.
Voilà pour les nouvelles.
Bon, est-ce que ça va se dérouler pour vrai? C'est une autre question, mais je pense sincèrement que TikTok est dans une situation excessivement complexe. C'est quasiment une guerre froide un peu entre deux pays de bannir des médias sociaux. Donc, à suivre de près, mais c'est ça sent pas tellement bon pour TikTok, soyons honnêtes.
Et c'est un bon point que tu apportes. J'ai hâte de voir à ce moment-là qu'est-ce qui va arriver avec les médias américains en Chine. Il y avait déjà un certain bannissement de certains médias. À voir ce que ça va donner comme impact et comme répercussion aussi, parce que s'ils donnent un petit coup d'épée à TikTok et la Chine, probablement que la Chine va répliquer avec quelque chose d'autre. Donc, ça pourrait avoir des impacts sur les compagnies en Amérique du Nord.
Oui, mais il n'y a déjà pas de médias quasiment qui sont en Chine, des médias américains, des Facebook, des Twitter de ce monde. Mais effectivement, bref, c'est un coup à droite et en répercussion, on a un coup à gauche là, souvent. Mais bon, à suivre. Merci Jonathan pour tout ça. Ça fait le tour de ton côté?
Ça fait le tour aujourd'hui, Antoine. Un plaisir, toujours.
Fantastique. Pour les gens qui nous écoutent, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.